Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'émission d'Uzbek Erika, l'émission qui continue à explorer le futur chaque semaine. Et quand on explore le futur, aussi pour mieux le dessiner, pour le sauver même, il est nécessaire d'entendre et d'écouter les voix qui dénoncent les travers possibles de nos futurs souhaités et souhaitables. Dans son dernier ouvrage « En marche », notre invité raconte le voyage de Thomas, 28 ans, fraîchement élu député d'un parti tout aussi frais, en avant, suivez-moi gare. Thomas part en voyage d'études découvrir la Rugénie, un pays d'Europe de l'Est qui, de petit pays en proie à des guéguerres entre deux régions et asséché par la dictature communiste, est devenu, sur le papier, à la pointe de l'avant-garde. Elle est éco-responsable, elle valorise la diversité en organisant par exemple des championnats de la diversité et en accueillant handicapés, personnes à mobilité réduite, on en reparlera. On pense que notre invitée possiblement se cache peut-être dans un de ses personnages, Mélanie, PMR en colère, vous nous direz. L'Europe entière, j'aimerais citer, l'Europe entière avec ferveur s'est transformée en sous-province américaine. La Rugénie imite le pire de son modèle, ses marques bas de gamme, son langage appauvri, ses obsessions sécuritaires, sa farandole de fierté, sa chasse au harcèlement. Convertie à ses dogmes, la société guerroie contre de supposés archaïsmes et s'applique fiévreusement à déconstruire les stéréotypes. Cette voix dissonante est dans notre studio. Benoît Dutertre, bonjour.
Bonjour.
Une autre voix dissonante, je ne sais pas, mais vous la connaissez bien, la fabuleuse Annabelle Laurent.
Bonjour Lila. Je commence direct. Ouais. Première question, j'ai donc le livre en main et je lis En marche, conte philosophique.
Oui.
Donc conte philosophique est un genre littéraire du XVIIIe siècle, oui, dont Voltaire est le principal représentant. Et le chapitre 5 s'appelle « La ferme sans animaux ». Donc on peut y voir, j'imagine, une référence à Orwell et la ferme des animaux, donc qui représente un autre genre, le genre plus dystopique. Donc je voulais savoir d'abord comment vous vous situez entre cet exercice du conte philosophique et celui de la dystopie et pourquoi vous avez eu envie de vous livrer à cet exercice-là.
D'abord, j'ai toujours adoré les contes philosophiques du XVIIIe siècle, hein, notamment ceux de Voltaire, alors évidemment Candide, qui en plus a la chance d'être à peu près le seul livre que tous les Français ont lu, parce qu'on l'étudie généralement en première avant de passer le bac.
Oui, c'est oui.
Et puis, mais aussi d'autres moins connus, comme L'Ingénu, etc., qui représentent toujours un personnage un peu naïf, en prise avec un monde étrange, etc. Et ce que j'aime en fait beaucoup dans les contes de Voltaire, c'est, je dirais que le mot philosophique pourrait faire peur, parce qu'en plus Voltaire était philosophe d'un certain côté, mais en fait c'est presque plus des contes comiques que des contes philosophiques. C'est une méditation sur la société, etc. Donc c'est ça qui peut-être apporte l'élément philosophique. Puis il est question de philosophie dans le livre, dans Candide, mais en fait c'est surtout une chose extrêmement drôle et burlesque du début jusqu'à la fin, et c'était peut-être ça aussi le modèle qui était le mien, c'est de d'écrire un personnage dans un monde bizarre qui vit tout un certain nombre d'expériences et qui est tout le temps en décalage et qui est guidé quand même par cette espèce d'optimisme un peu candide ou oui, béat qui fait qu'il croit que tout est merveilleux et qui découvre petit à petit. Donc c'est un modèle, ça c'est presque un genre que j'ai voulu reprendre mais l'appliquer à quelque chose qui ressemblerait plus à notre époque.
Donc Orwell est loin de tout,
oui,
ça.
Oui, mais Orwell, il y a une critique. Alors, Orwell a apporté autre chose, il a apporté une critique de la modernité, qui évidemment n'est pas chez Voltaire, parce qu'on n'est pas encore dans les temps modernes, de ce monde qui est censé faire notre bien et nous apporter le progrès, et qui en fait nous apporte souvent des illusions, violences même, et donc il y a ça que j'ai toujours beaucoup aimé chez Orwell, et c'est vrai que bon, la ferme des animaux, c'est aussi un peu un conte philosophique quand même. C'est un conte en tout cas. Et mon livre est un conte, j'irais presque à la limite de la bande dessinée aussi, si on voulait rapprocher d'autre chose. Parce que, en fait, ça s'appelle En Marche. J'en finirai juste pour ça. Ça s'appelle En Marche. J'ai failli l'appeler Tintin, non, Thomas en rue Génie. Thomas et les mystères de la rue Génie. Il y a un côté, voilà, que ce soit dans un conte ou dans une bande dessinée, il y a un côté un petit peu. Le trait est un peu caricaturé volontairement, si vous voulez.
Oui.
On peut me reprocher beaucoup de choses dans le livre, mais je ne pense pas qu'on puisse me reprocher d'être caricatural parce que j'ai voulu être un peu caricatural.
Alors, justement, à propos caricature, quand vous tapez, et vous tapez souvent, pouvait être très très dur en tant que lectrice, on peut être un peu ballotté, on se rassure après en se disant mais attention, c'est une satire, il s'agit d'un conte philosophique.
On est bien d'accord.
Qui ne vous engage pas, mais est-ce que du coup cette distanciation du conte philosophique, est-ce que quelque part c'est pas une protection pour éviter d'être vilipendé, un peu comme ce personnage dans votre précédent roman, l'ordinateur du paradis, ouais. qui se fait attraper pour
ses escapades sur internet, oui. Etc. Sur des sites pas convenables, etc. Non, écoutez, alors, je ne crois pas que j'ai cherché à me protéger de quoi que ce soit, parce que j'ai quand même plutôt, pour ceux qui me connaissent, une réputation d'être quelqu'un qui met justement souvent les pieds dans le plat de notre époque. Ça m'a même valu parfois pas mal d'attaques. Hein. Donc, je n'ai pas besoin de m'en cacher ni de m'en protéger. Mais par contre, évidemment, le principe de ce livre, c'est que je concentre dans un récit et dans un tout petit pays, tous les travers que je pense, ou du moins, être ceux de notre époque. Ce qui donne évidemment quelque chose qui peut paraître un petit peu violent, parce que, évidemment, tous ces travers-là, dans notre réalité, ils sont dilués dans plein d'autres choses. Et c'est le jeu de ce genre de livre, c'est de créer un monde imaginaire, mais dans lequel je n'ai pris que des choses un petit peu saillantes et effrayantes de notre époque. Donc c'est... Voilà, c'est rassembler des choses qui existent réellement, mais les rassembler de façon tellement concentrée que ça devient quelque chose d'un peu cauchemardesque. Alors, c'est à la fois tout le monde qui revendique sa fierté et sa dignité, c'est tous les véhicules à roulettes qu'ont remplacé les véhicules à moteur, mais qui finissent eux-mêmes par quasiment s'entretuer.
Oui, différentes castes, les vélos, les poussettes.
Que des castes, des groupes qui s'opposent, c'est l'impossibilité de manger un morceau de viande sans qu'on vous regarde avec des yeux noirs en vous disant que vous avez du cadavre dans votre assiette. Si je rassemble tout ça dans un même récit, dans un même lieu, dans un même petit pays, évidemment, ça devient un monde kafkaïen, mais chaque détail est emprunté à notre réalité. Mmh. Simplement, je les ai mis tous ensemble. Et j'ai créé ce pays qui s'appelle la rue Génie, qui n'est pas effectivement très très réjouissant.
Qui est quoi ? Qui est un mix de l'Estonie de...
Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est drôle, j'étais à une émission... Hier, on me disait, mais il y avait une chanteuse californienne qui était là, elle me dit, mais tout ce que vous racontez, c'était au fond, c'était la Californie déjà, avant l'Europe, etc. Cette l'obsession de la protection, des dignités,
obsession
des fiertés,
du sport,
etc. Il y a tout ça dans mon livre. Mais c'est vrai que j'ai aussi... Je voulais que ce soit un pays imaginaire, donc je ne voulais pas que ce soit la Californie, je voulais que ce soit un pays... un peu étrange, comme il y en a dans Candide de Voltaire, d'ailleurs, hein, quelque part en Europe centrale. Et surtout, j'avais été frappé, lorsque j'ai beaucoup voyagé en Europe centrale, où j'ai eu des livres de traduits, où j'étais invité un certain nombre de fois, et notamment des pays comme la Slovaquie, par exemple, qui étaient vraiment le... ou encore comme la Slovénie, etc., des pays qui étaient... considérés comme des pays qui étaient un peu à la remorque du développement et qui ont surjoué d'une certaine façon quand ils sont entrés dans le monde moderne et dans l'Union européenne, qui ont surjoué leur place de pays en avant, et si bien que maintenant tout le monde parle que anglais, et si même vous parlez en français ou en allemand, on vous regarde de haut comme si vous étiez un arriéré, etc. Et moi j'ai vécu tout ça dans ces pays-là aussi, ces pays qui... parce qu'ils viennent d'un monde plus archaïque, qui était cet ancien monde communiste, surjoue la modernité à l'occidental.
Parce qu'en effet, la rue Génie est candidate à l'Union européenne,
voilà.
Et elle se distingue, elle tient absolument à se distinguer de la Moldavie,
voilà.
Qui, elle, sous la coupe du totalitarisme,
qui
ne s'est pas encore libérée.
Parce que, alors, il y a aussi une raison, c'est que la Moldavie, C'est encore un peu Tintin, tout ça, hein, d'ailleurs. Hein. Mais la Moldavie, ce grand pays qui est à côté, qui est menaçant, etc. Évidemment, on pense à tout ce qui se passe en Europe de l'Est, en Europe centrale, dans les Balkans, avec l'ombre de la Russie, ou du moins telle qu'on nous présente cette situation politique. C'était important pour moi parce que je voulais que ça finisse par la guerre aussi. C'est pour ça que ça ne peut pas se passer en Californie, parce que dans Candide, au fond, ce qui se passe dans Candide, c'est que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, comme l'explique Pangloss à Candide, mais en réalité, c'est un monde d'une cruauté abominable où tout le monde s'entretue et fait la guerre. Et je voulais que la progression du livre arrive d'une certaine façon à ce que ce meilleur des mondes possible, qui est la Ruginie, en fait, c'est un pays qui se lance dans une guerre absurde contre son voisin pour des raisons politiques complexes. Ouais.
Pour poursuivre, donc je comprends bien l'exercice de satire, par exemple sur l'écologie, par exemple. La Ruginie est un faux paradis éco-responsable. Lila le disait en introduction, elle n'est éco-responsable que sur le papier. Dès son arrivée, Thomas découvre que l'autoroute est jonchée de déchets. Son taxi va s'arrêter dans un parking géant puisque le centre-ville est devenu inaccessible aux voitures individuelles, mais les transports communs n'ont pas été développés.
Voilà,
du coup, la situation devient vivable, etc. Donc, en fait, vous pointez...
Suivez mon regard.
Tous les... Oui, là, je crois savoir où vous vous situez en termes de politique parisienne. Vous pointez en fait tous les dysfonctionnements de ce qu'on pourrait appeler des mesures qui seraient des mesures de dictature verte, des mesures impopulaires mais qui sont pourtant nécessaires aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas faut des mesures radicales face à l'urgence de la situation ? Et je m'étonne que vous pointiez uniquement ces dysfonctionnements-là. Est-ce qu'il faudrait en tout cas limiter le nombre de voitures individuelles pour réduire l'empreinte carbone ? Alors évidemment, il faut développer en même temps les transports en commun.
Voilà, il faut le faire déjà de la bonne façon.
Mais
j'entends bien ce que vous dites il y a plusieurs éléments là-dedans. D'abord, c'est vrai que chaque époque produit ses tics de langage d'une certaine façon. Et aujourd'hui, sans doute pour des bonnes raisons, on est entré dans une espèce de surenchère permanente sur le durable, le responsable, etc. Ces adverbes comme ça que...
Qui suffisent, c'est une surenchère, mais elle ne suffit pas.
C'est l'éthique de langage de l'époque. On met ce mot-là partout, mais justement, on n'en fait rien dans la réalité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, je dirais, le décalage entre le discours et la réalité. Et je dirais même l'incompatibilité entre le discours vert qu'on tient et la société qu'on produit. C'est-à-dire que je pense, moi personnellement, c'est peut-être mon côté un peu communiste, mais qu'une société purement libérale ne peut pas être éco-responsable. Et le principe de ce petit pays qu'est la Ruginie, c'est qu'il veut libéraliser totalement les échanges économiques, entrer dans la globalisation, je dirais un peu comme notre cher président Macron, et en même temps afficher un discours, mais qui n'est en somme qu'un discours de propagande, éco-responsable, durable, etc., en sortant ces mots à toutes les sauces et en prenant des mesures symboliques. Moi, je pense que ça ne marche pas ensemble, simplement. C'est pour ça que dès le début du livre, quand mon personnage veut se rendre en Ruginie, j'explique comment, par exemple, dans ce pays qui est soi-disant tellement éco-responsable, on ne peut même pas s'y rendre en train. On est obligé de prendre un avion low cost parce que tous les services publics des transports ont été supprimés. Et de la même façon, quand il est dans le pays, il y a partout une espèce de publicité qui est faite pour le recyclage, l'hygiène, etc., le recyclage des déchets. Mais dans la même réalité, on a licencié tout le vieux service public des ordures de Ruginie, etc. Et finalement, tout ça crée des conflits qui font que le pays est un peu à volo. Alors, on a le discours d'un côté du recyclage, et puis de l'autre côté, les poubelles qui sont abandonnées partout. Bon. Et
tout Parce le que la population ne suit pas, en fait. La population dépose des déchets devant les...
Et pareil, je dirais, pour la voiture, je veux dire, bien sûr, dans l'absolu, il faut qu'il y ait moins de voitures. Moi, j'ai même écrit il y a des années un petit livre qui s'appelait « Le grand embouteillage » où je militais pour la diminution du nombre de voitures, notamment à Paris. Mais en même temps, on est dans une société dont le modèle, depuis des décennies, consiste à pousser les gens à acheter des voitures, à circuler en voiture, à fermer beaucoup de moyens de se déplacer autrement qu'en voiture. Et tout d'un coup... On leur dit, ah non, ça y est, vous pouvez plus entrer dans Paris, on va fermer les voies, vous allez vous débrouiller sur une toute petite voie, puis on va ouvrir tout le reste au vélo, et on n'a pas de solution à leur proposer. Donc on est dans une contradiction qui est caractéristique de notre époque. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est ce en même temps, hein, qui est caractéristique vraiment.
Donc vous voulez une dictature verte, mais communiste. C'est ce que je
Non, je ne veux pas de dictature verte, je ne veux pas de dictature du tout, mais je suis pour la responsabilité de l'État, effectivement, dans ce domaine, et pas pour l'abandon de l'État au privé, avec soi-disant des petits slogans verts par-dessus, quoi.
Lila, tu veux...
Oui, j'avais une question regardant cette représentation de la mobilité que vous faites. Vous écrivez les boulevards de Zbrich, je ne saurais pas comment prononcer, conserver une allure du 19e siècle avec leurs larges chaussées propices à une circulation fluide dont rêvaient les architectes au premier temps l'automobile. On a un peu l'impression qu'au fond, Votre slogan, votre motto, pour reprendre un terme non pas anglais mais allemand, c'est pas tant c'était mieux avant que aller en avant, c'est pas mieux. Vous êtes peut-être pas fâché contre le progrès, mais en attendant, on fait quoi si on vous lit l'enfer et pavé de bonnes intentions? Est-ce qu'on fait quoi? On arrête d'être idéaliste, d'aspirer.
Soyons clairs, j'écris pas des livres pour améliorer le monde, ni pour le changer. Hein, je suis pas là, c'est pas un discours.
C'est pas le rôle d'un
politique constructif.
Moi,
ce qui m'intéresse plus, c'est de saisir la bizarrerie des choses, la drôlerie des choses, les contradictions et de les mettre en scène d'une façon
de pointer l'absurdité.
Littéraire. Ouais. Bon. Soyons clairs.
Comme les parallèles sont partout, on peut pas s'empêcher de vous
interroger. Non, mais bien sûr. En même temps, j'ai des idées quand même sur tout ça. Mais bon, voilà. J'ajoute, tiens, pour faire une petite parenthèse, vous disiez, c'est ça qui m'amusait aussi dans situant le livre en Europe centrale, c'est que je suis allé beaucoup en République tchèque et là-bas, il y a plein de mots qui ne comportent que des consonnes. Et d'où mon jeu dans le livre avec la capitale qui s'appelle Zbritsk, ouais. Avec juste un Y au milieu, et le plat national qui s'appelle le Zbritsch, où il n'y a quasiment que des consonnes. Voilà. Mais bon, bref. Mais non, simplement, vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit l'important, ce n'est pas le changement pour le changement ou la modernité pour la modernité, c'est que dans chaque changement, il faut mesurer ce que nous gagnons et ce que nous perdons. Quand je décris cette ville qui est envahie par les véhicules à roulettes, les trottinettes, en guerre contre les triporteurs, en guerre contre les cyclistes, en guerre contre les piétons, en guerre contre les fauteuils de personnes à mobilité réduite.
C'est un passage
réduite.
Très, très drôle, d'ailleurs.
Voilà, je montre un petit peu à la fois cette communautarisation même de la circulation, comme ça, et je ne dis pas que c'est pire que la circulation des automobiles en ville. Je dis que c'est un changement qui induit lui-même ses propres failles, ses propres vices. C'est malheureusement, c'est toujours comme ça. Et puis...
On le voit à Amsterdam, où c'est le paradis du vélo, mais c'est aussi infernal par ailleurs. Enfin,
l'enfer des piétons aussi.
Pour les piétons.
Pour les piétons.
Personne... Et à Paris un peu, parce que le vélo étant... Je dirais le développement durable sur son guidon à lui tout seul, et il se croit absolument tout permis, puisqu'il est la vertu par définition dans notre nouvelle conception. Les autres n'ont qu'à se ranger, que ce soit sur les passages cloutés, les trottoirs, etc. Le vélo, c'est la vertu. Et on fait tout, même bien tous faire du vélo en même temps. Mais en tout cas, ce que j'essayais de montrer. Et oui, je montrais en même temps ce paradoxe quand je parle de la fluidité, parce que. C'est vrai que malgré tout, une ville comme Paris, par exemple, elle a quand même été construite pour favoriser la circulation. C'était des voitures à cheval après, ça a été des voitures à moteur ensuite, mais c'est une grande ville qui a des grandes dimensions. C'est pas comme une petite ville de certains pays d'Europe du Nord, c'est une très grande ville où il faut pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre. Et Paris a été conçu pour ça, et on peut pas non plus réduire tout ça à une espèce de chose de vélo. Et il est vrai que c'est un des slogans qui, moi, m'agace un peu de la municipalité actuelle, qui est que la fluidité n'est plus un objectif en soi. Parce que la fluidité, ce serait faire le jeu de la voiture. En réalité, sur cette base-là, on a... Enfin, bon, j'en ai pas là pour parler de Paris, on est pas là pour parler de mon livre.
On peut, si vous voulez, parler de ce... de ce du gourou en fait de la rue Génie, oui. qui est un Rugène qui ensuite a exilé aux États-Unis. C'est un professeur d'économie et de philosophie qui s'appelle donc Stéphane Gloss, oui. L'auteur de la globalisation heureuse et qui développe une théorie autour de trois axes. Et on en a parlé tout à l'heure, donc liberté économique, protection des droits humains et sauvegarde de la planète. Là, vous avez également en fait évoqué la Californie, mais ce Stéphane Gloss, c'est qui dans la Silicon Valley?
Alors, d'abord, non, mon Stéphane Gloss.
C'est le docteur Pangloss.
Oui, évidemment, c'est Pangloss.
Bon, ça vient de me frapper. Je n'avais pas du tout.
Vous venez de le voir. Ah oui. Voilà, c'est Pangloss. Bon. Donc, c'est le maître à penser du héros, Thomas. Comme Pangloss, c'est le maître à penser de Candide. Il y a des petites références dans la construction du personnage avec les États-Unis. En fait, là, c'est pas tellement qu'il vient de la Silicon Valley, c'est qu'il fait partie de toutes ces élites d'Europe centrale, ex-communistes, qui ont été formées aux États-Unis et qui sont revenues dans leur pays d'une certaine façon pour faire la révolution et convertir ces pays au capitalisme. Et ça, ça a été quelque chose de très très fort en fait après 1989. C'est-à-dire que autant, d'ailleurs d'où nos difficultés parfois de communication avec ces pays, autant nous, la France, l'Allemagne, ce que M. Rumsfeld appelait la vieille Europe, autant nous avons trouvé des accords plus ou moins avec l'Union soviétique qui dominait ces pays voilà, dans une politique d'accommodement de cette situation, autant eux, les États-Unis, ont entretenu des relations très étroites avec les mouvements dissidents, ont fait venir et accueilli des quantités d'étudiants, comme ils savent faire aux États-Unis, ils font ça aussi un peu dans les banlieues françaises aujourd'hui, et à peine ces pays ont-ils été libérés du joug communiste qu'on a vu arriver toutes ces nouvelles élites formatées vraiment américaines et qui ont contribué à la transformation de ces pays. Donc il y avait un petit peu cette chose-là dans le personnage de Pangloss. Maintenant, il est aussi plus directement inspiré de certains philosophes ou maître à penser français. Et puis aussi, je ne sais pas, imaginez par exemple que mon personnage de Pangloss, il va jusqu'à provoquer une guerre aux frontières de la rue Génie avec ce vieux pays de la Moldavie totalitaire pour des tas de raisons obscures. Il incite son président de la République à entrer dans la guerre. Et puis lui-même, il va sur le champ de bataille avec sa belle chemise blanche, grande ouverte. Non, ça ne vous rappelle rien, sous l'œil des caméras, etc. C'est, voilà, on a des philosophes comme ça, nous aussi. Hein.
On va continuer notre petit jeu de qui est qui. Qui est qui, vous faites dire, me voici au cœur de cette caricature du monde moderne. Faites-vous dire à qui je pense être votre double, Mélanie.
Alors,
est-ce que c'est
Mélanie,
votre double?
Absolument, vous avez bien vu. J'ai plusieurs doubles dans le livre.
Alors, Mélanie, qui est une Allemande en situation d'handicap, PMR, personne à mobilité réduite, et qui se retrouve coincée en rue Génie suite à la
programme d'assurance permet à moindre coût de vivre dans ce pays qui n'est pas très très loin de
l'Allemagne.
Elle
se retrouve
non plus
dans cet enfer, dans cet enfer. Pour elle.
Voilà. Alors, je vais vous revenir beaucoup de moi dans Mélanie, effectivement, mais j'ai au moins trois doubles dans le livre. Vous savez, quand on est romancier, je crois, je ne peux pas parler pour mes collègues, mais on met de soi-même dans tous les personnages d'une certaine façon. Mais on ne met pas la même partie de soi-même, mais c'est comme ça qu'on les nourrit et qu'on les rend vivants aussi. Donc, il y a de moi dans Thomas, parce qu'il a ce côté un peu enthousiaste, jeune homme de bonne famille qui croit.
Sur le côté Candide, vous
voilà,
reconnaissez
un petit peu, je sais pas. En tout cas, bon, il y a surtout de moi, même dans Stéphane Gloss, parce que justement, comme j'aime pas ce personnage, ce théoricien de la mondialisation, pour le rendre un peu plus humain, je lui ai prêté aussi tout un côté de moi-même, cet amour de la nature qu'il a et qu'il cultive dans sa grande propriété très protégée au cœur d'un monde chaotique qu'il a contribué à mettre dans le chaos, mais lui s'est préservé pour lui-même un endroit idyllique avec ses livres, ses paysages, tout ce qu'il aime. Là, j'ai mis un peu de moi aussi dans ses goûts, si je peux dire. Et mais c'est vrai que Mélanie, c'est sans doute le personnage que j'ai mis le plus de mes idées, si on peut dire mes idées, puisque c'est cette femme, effectivement, handicapée, comme on ne doit plus dire, je pense, aujourd'hui, mais enfin, bon, c'est pas grave, cette femme handicapée en fauteuil et qui, comme moi, a une espèce de révolte sur... Là encore, c'est sur la propagande et de l'époque. C'est-à-dire que, comme moi, elle a grandi dans les années 60, 70, au début des années 70 encore, dans une Europe qui était extraordinairement prospère, riche.
On croyait au progrès.
On croyait où l'avenir paraissait radieux pour tout le monde.
Ouais.
Aussi qu'on soit d'ailleurs de droite ou de gauche, les uns croyaient au progrès de l'économie, les autres au progrès social, où il n'y avait pas de pression religieuse comme il y a aujourd'hui, où il y avait... Enfin, je ne dis pas que c'était une vie idéale, mais c'était une société optimiste, solide, prospère, etc. Où la protection sociale ne faisait que s'accroître d'année en année, etc. Et elle a vu ce monde s'effondrer à partir du milieu des années 70, progressivement, et avec une espèce de complicité des élites qui, d'une certaine façon, ont non seulement contribué à l'effondrement de ce monde en faisant le virage néolibéral inspiré par Thatcher, Reagan, etc., etc., qui était celui du monde entier, au fond, mais qui, en plus, ont inventé, et c'est ça qui la révolte plus que tout, ont inventé l'idée que ça ne marchait pas du tout avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend continuellement aujourd'hui chez les hommes politiques ou économistes, nous dire « Ah oui, mais l'État, ça ne marchait pas, les entreprises d'État, c'était une catastrophe, etc. » En réalité, il suffit de regarder en France, tous les derniers fleurons de l'industrie française qu'on a eu, que c'était Renault, EDF, Air France jusqu'à une certaine époque, etc., c'était des entreprises d'État qui avaient été... dont la prospérité avait été nourrie par ce modèle social-démocrate qui fonctionnait en fait très très bien. Et aujourd'hui, on invente une espèce de contre-propagande comme quoi tout ça n'avait jamais marché. Alors ça la met en rage, Mélanie. Comme moi, ça me met en rage. Mais
pour
voilà,
elle, la rue Génie est l'antichambre de l'enfer, si je me souviens bien. Donc,
parce qu'elle est là, elle
double, peste. C'est mais assez clair là où vous vous situez.
Parce que j'ai mis moi aussi, j'ai mis mon mauvais caractère chez elle aussi. Parce que j'ai un côté candide, mais j'ai un côté je râle tout le temps, moi, contre le monde tel qu'il va, contre chaque détail de la vie quotidienne, ça qui me nourrit dans mes descriptions, et tout me rend furieux, un cycliste qui arrive sur le trottoir me rend furieux, etc. Et elle, je lui ai donné toute cette hargne, cette haine de son époque, voilà, contrairement à d'autres personnages. Voilà. C'est pour ça que le livre est ponctué, en fait, vous avez vu, par trois grands monologues, qui sont un peu comme des autoportraits, si vous voulez. Le premier, c'est celui de Pangloss, qui est pris entre ses théories fumeuses et son confort personnel. Le second, c'est le monologue de Mélanie sur ce monde qui va toujours plus bas.
Et le dernier, c'est
le troisième, c'est celui de Thomas.
Thomas,
finalement, il faut s'accommoder, se ranger et trouver un moyen de se faufiler dans cette horreur. Quoi.
Juste au sujet de Thomas, vous écrivez « Rien ne le faisait souffrir comme ses regards hostiles d'irréductible adversaire qui dédaignait ses élans parce qu'il était jeune et puissant, tandis qu'eux-mêmes étaient pauvres et anonymes. Thomas ne manquait pas de rappeler qu'il avait travaillé dur avant d'acheter son premier costume et sa première cravate. Il m'a semblé y voir une référence à cet épisode de 2016 quand Macron était ministre de l'économie et qu'il dit donc « Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. »
Oui,
donc,
d'ailleurs,
Thomas,
quand j'ai écrit le livre,
Macron.
Macron n'était pas encore président.
Ouais.
Quand j'ai écrit le livre, et le livre s'appelait pas encore En Marche. Mais il y avait déjà, cette scène, par exemple. Parce que il y avait quand même un truc peut-être qui me fascinait dans le mouvement de Macron. Mais c'est pas le seul, d'ailleurs, on en voit un certain nombre. C'est presque un type social. Ce sont cette nouvelle élite de jeunes gens, de bonnes familles, très diplômés, etc., pour la plupart, mais qui en même temps sont sincères, d'une certaine façon, dans leur idée qu'avec leur théorie, leur connaissance, ils vont réformer le monde et que ça va aller mieux pour tout le monde, etc., etc. Il y avait un côté vraiment comme ça dans le mouvement En Marche. Et en même temps, on le voit en ce moment, au bout d'un moment, ils finissent par s'opposer à une réalité qui est plus brutale, plus complexe, plus archaïque, plus difficile à manipuler que ce qu'ils s'imaginaient au départ. Et donc voilà, c'est pour ça que cette petite scène, effectivement, cette volonté qu'ils auraient malgré tout d'être aimés et d'être compris par ceux qui, objectivement, socialement, sont leurs adversaires, c'est quelque chose que je trouve assez frappant dans cette nouvelle élite politique française. Alors, donc j'avais écrit cette scène très tôt, mais à ce moment-là, j'avais pas encore vraiment le titre du livre.
Vous n'avez pas eu peur que dans les librairies, ce soit pris pour un essai sur...
Bah, c'est peut-être le danger, oui. Maintenant, je me dis, oh, au fond, est-ce que j'ai bien fait ? Parce que les gens croient que c'est un livre à la propagande pour le mouvement En Marche, je ne sais pas. Moi, j'ai marqué compte philosophique juste dessous, assez nettement, mais c'est vrai...
Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de risque. Mais...
voilà. Et puis, c'est vrai qu'après, ouais. Donc, quand j'ai cherché le titre définitif, il y avait Thomas et Henri Génie, il y avait le Schbritsch, ce plat national rugène. Il y avait aussi La ferme sans animaux, qui est devenu le titre d'un des chapitres. Mmh. Et puis, En Marche, tout d'un coup, m'est apparu comme une évidence parce que mon personnage marche beaucoup. Mmh. Il traverse ce pays, il le visite, il se met en marche à la découverte de ce petit monde idéal qu'est la rue Génie. Et en même temps, il voudrait que le monde se mette en marche avec lui vers une réforme qui va nous apporter plein de progrès. Mais le monde ne veut pas, lui, se mettre en marche au rythme de Thomas ou peut-être de Macron en France. Voilà.
Dans votre roman, ce sont les femmes creux remarquées qui vitupèrent. C'est elles qui prennent les armes, enfin qui s'opposent à ces motards... très bruyants et qui souillent leur campagne. De l'autre, on a aussi la figure de la femme guerrière, sportive, qui représente l'avant-garde sportive du pays. Je pense aux joueuses de foot féminin.
Les Louves de rue Génie.
C'est ça, les Louves de rue Génie. On a une autre femme qui se plaint. Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'on l'a trop regardé. Au fond, ça ressemblerait à quoi un conte philosophique de Benoît Dutertre où les femmes auraient le pouvoir ? Ou est-ce que vous risqueriez ou pas ?
Ça a déjà été fait. Il y a un très bon livre de Bernard Quirini. Qui est une,
je pensais à un autre, mais...
où les femmes ont pris le pouvoir. Ça se passe dans un pays imaginaire, qui est l'empire belgo-néerlandais dans 50 ans, et les femmes ont entièrement pris le pouvoir, et les hommes ne sont plus qu'une sous-espèce dominée. C'est une chose assez drôle. Mais effectivement, oui, non, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des types féminins où il y a ces... malgré tout assez différent, parce que Thomas est pris en main quand il arrive en rue Génie par une jeune attachée parlementaire qui ne veut parler qu'allemand et manger que végétal. Bon, alors ça, c'est un certain...
Anglais.
Anglais, pardon, j'ai dit allemand. Oui, pardon, oui, anglais.
Et qui lui propose un menu 100% avoine, parce que... voilà. Alors qu'il rêve d'un plat traditionnel avec de la viande.
À base de porc, et pendant tout le livre, il essaye de manger son plat traditionnel des montagnes rugènes à base de porc farci, etc. Il n'y arrive pas, personne, tout le monde le regarde avec dégoût dès qu'il essaie d'en avoir. Et il y a ces footballeuses, qui est une des premières scènes que j'ai écrites du livre, parce que ça me fascinait, c'est un des sujets du livre, c'est jusqu'où va se nicher la revendication de l'égalité. Moi, je suis pour l'égalité, évidemment, dans tous les domaines, et notamment l'égalité des sexes, mais mes footballeuses en livre tiennent une espèce de discours que j'ai déjà entendu, comme quoi il y aurait eu une espèce de volonté presque discriminatoire de les empêcher de jouer au foot pendant des générations, etc. Alors qu'il faut être clair, le foot, c'est une invention de brutes, de mâles qui jouent entre eux, etc. Et personne n'a jamais pensé pendant très longtemps, ni les femmes, ni les hommes, que ça pouvait les intéresser. Et tout d'un coup, il y a comme ça cette espèce de... au nom de l'égalité, d'idée qu'il faudrait aligner les championnats féminins sur les championnats masculins, etc. Et puis il y a toutes les sous-catégories. Après, vous avez les footballeuses voilées, les footballeuses lesbiennes, les footballeuses, etc., qui sont toutes dans ces championnats de la diversité.
Il
y a toujours comme ça cette obsession de l'égalité qui va jusque dans des domaines les plus improbables. Et de la même façon, avec les motards qui hantent les montagnes de rue Génie, qui sont vraiment des endroits paradisiaques, mais qui sont détruits par la présence des motards qui viennent
par
de toute l'Europe.
Par la pollution sonore.
Invités par le gouvernement rugène à venir s'ébattre là. Et eux-mêmes se sentent attaqués comme... une autre minorité, ils se sentent attaqués, les motards qui pourrissent la vie de tout le monde, parce qu'on ne les respecte pas, et on ne respecte pas leur style de vie de motard en voulant réglementer leur façon de conduire, etc. Et on est beaucoup dans cette société-là des fiertés, des égalités opposées, etc. Donc voilà ce que je voulais mettre en scène.
Est-ce que ce n'est pas un progrès ? Vous parliez de Mélanie ou de vous, née dans les années 60. Est-ce qu'on n'a pas atteint un progrès sur ce point de vue-là ?
La fierté des motards ?
Non. Si vous voulez, vous voyez très bien ce que je veux dire.
Le droit des femmes à jouer au foot ?
Oui, oui.
Mais personne n'a
jamais... Non, pas sur le droit au foot, sur l'égalité, tout simplement. Si vous voulez, Juste citer, donc, Lila vient de la citer, mais c'est une scène au début du livre où le Thomas est embarqué au poste parce qu'il a souri de façon un peu trop prononcée à une femme.
Ouais.
Donc la scène est en effet complètement ridicule puisqu'il se retrouve à devoir
se justifier.
Voilà. Mais je dois dire que même si je comprends l'intention et la satire, etc., moi je ne peux pas m'empêcher de ne pas trouver ça si drôle parce que pour moi c'est un peu une réponse au mouvement MeToo et à tout ce qui émerge et ce qui pour moi est un progrès.
Non, mais que l'égalité soit un progrès, l'égalité réelle dans de plus en plus de domaines, je ne dis pas le
dénonciation
contraire.
D'agression, oui. Etc. Donc là, vous prenez.
Jusqu'à quels excès cela peut nous conduire aussi.
Mais je vois bien votre démarche, mais je trouve que c'est une façon aussi qui a été de vraiment minimiser ce qui était MeToo en parlant en citant ce genre d'exemple où une femme pourrait estimer qu'elle est agressée parce qu'on l'a trop regardée, mais c'est évidemment pas ça MeToo. Ou c'est évidemment pas ça.
Moi, je suis pas là pour justifier, glorifier les progrès qui se sont accomplis. Je suis là pour montrer
les travers.
Le bien lui-même peut engendrer une forme.
Je comprends la démarche.
De violence même.
Oui, oui. Le Thomas, justement, dit, vous dites, il ne supportait plus de voir la société dirigée par des mâles blancs de plus de 50 ans, comme si c'était. La nouvelle génération ne supporte plus.
Thomas est donc un parfait représentant de cette nouvelle génération.
Lila.
Malheureusement, ce podcast touche à présent à sa fin, mais avant. Tout conte philosophique recèle une morale chez Voltaire, dont vous reprenez d'ailleurs presque littéralement son fameux « il faut cultiver notre jardin ». Quelle serait la morale d'En Marche pour vivre heureux, vivons cachés, à contre-courant et à contre-temps?
C'est une morale un peu cynique et un peu sombre en même temps dans le livre. Puisque finalement, lui, la conclusion, c'est pour vivre heureux, il faut que je cultive le jardin d'un type qui a vraiment réussi, qui est Stéphane Gloss, qui est milliardaire, qui peut m'aider à vivre dans des conditions à peu près décentes, et je vais travailler, je me mets à son service d'une certaine façon. C'est l'asservissement par l'argent et qui permet, somme toute, de trouver une façon de survivre dans ce monde brutal. Donc c'est une fin sombre, plus que celle de Voltaire. Parce que finalement la solution de Candide elle est plutôt jolie, il s'occupe de son petit jardin et c'est très très bien. Là il s'occupe d'un très joli jardin mais c'est pas le sien,
mais c'est pas le sien.
Voilà. Et voilà, donc c'est un monde sans espoir mais où on peut trouver quand même trouver une façon de se débrouiller, de survivre, c'est ça que ça voudrait dire. Oui. Donc c'est une vision pessimiste, si vous voulez.
Ah oui, ça, le cynisme
pessimiste et cynique, mais donc j'espère à un certain nombre de reprises, en tout cas, assez drôle.
Mais oui, ça l'est. Merci beaucoup, Benoît Dutertre, d'être passé par notre studio. Et merci à vous, auditeurs, qui êtes nombreux à écouter le podcast du Zbeck. À la semaine prochaine pour de nouvelles explorations des futurs. Et n'oubliez pas de vous abonner.